Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mercredi prochain, le 22 janvier, sort en salle le film événement du cinéaste américain Steve McQueen, l'auteur de Hunger et de Shame, qui raconte l'histoire terrible d'un homme libre devenu esclave pendant 12 ans. Franck Ferrand a choisi de lui consacrer l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. L'homme en question, un noir du milieu du 19e siècle, s'appelait Solomon Northup. Il a écrit des mémoires où il raconte son affreuse aventure et c'est l'origine de ce film 12 Years a Slave, esclave pendant 12 ans. Solomon a été enlevé, vendu comme esclave dans une plantation de Louisiane. Il est interprété par le comédien d'origine nigériane Chiwetel Ejiofor dans cette fresque cinématographique qui se veut une peinture sans masque de l'esclavage en Amérique et de sa cruauté. C'est un film qui remue, comme le dit une de nos auditrices qui envoie un message sur Facebook avant le début de cette émission. J'ai convié à nous rejoindre Nicole Bacharan pour évoquer avec elle la condition de ces esclaves du Sud des États-Unis.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous a posée Louise via Facebook.
Où Louise souhaiterait connaître l'origine des colonnes Maurice, ces supports d'affichage très parisiens et qui cette semaine sont justement couverts d'affiches pour 12 Years a Slave.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans ce film 12 Years a Slave, le grand acteur nigérian Chiwetel Ejiofor interprète donc le rôle d'un personnage réel, Solomon Northup, qui est né libre au début du 19e siècle, est né en 1808, avant donc d'être enlevé et vendu en tant qu'esclave. Il le dit lui-même, « Je suis né libre. Pendant plus de 30 ans, j'ai goûté aux joies de cette liberté dans un état libre. J'ai ensuite été enlevé et vendu comme esclave, demeurant dans cette condition d'asservissement jusqu'à ce que l'on vienne me secourir en janvier 1853, après 12 ans de captivité. » 12 années de captivité pendant lesquelles ce citoyen américain va partager la condition des millions d'esclaves du sud des États-Unis, servitude affreuse, et qu'il racontera dans ses mémoires. D'abord, ce moment terrible où sa vie bascule, je le cite. « J'avais des menottes au poignet, mes chevilles étaient lourdement enchaînées, une extrémité de la chaîne était rattachée à un grand anneau fixé au sol, l'autre au fer qui enserrait mes pieds. Me réveillant d'une transe si douloureuse, je mis un moment à retrouver mes esprits. » C'est que Solomon ne se rappelle pas vraiment ce qui lui est arrivé. « Un trou de mémoire, écrira-t-il, dont je ne saurais dire la durée, précédait mon réveil dans cet endroit solitaire, et j'étais incapable de me souvenir, malgré tous mes efforts. Je tendis attentivement l'oreille, à l'affût du moindre signe de vie, mais rien ne vint briser l'oppression du silence, si ce n'est le tintement de mes chaînes quand je me hasardais à bouger. » Solomon Northup se réveille donc ainsi entravé par un sinistre matin d'avril 1841. Il a donc 32 ans. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. La dernière chose dont il se souvienne, c'est qu'il a suivi jusqu'à Washington deux hommes promoteurs d'un cirque. Ils s'appellent Merrill Brown et Abraham Hamilton, ces deux hommes, et ils lui avaient proposé donc un travail temporaire dans un cirque itinérant. Et voilà qu'il se réveille, drogué, enchaîné. Il ne va pas tarder à réaliser que son argent et son certificat d'homme libre ont disparu. Ça, c'est évidemment l'erreur de Solomon. Il n'avait pas prévenu sa femme qu'il allait suivre ces deux hommes. Il aurait dû, bien sûr, mais il ne l'a pas fait. Solomon est maintenant enfermé dans une prison d'esclaves, la Yellow House, la Maison Jaune, tenue par James Burch. À l'époque, à Washington DC, ce n'est qu'un des endroits où sont détenus les esclaves à vendre. Il y en a pas mal. Alors à quoi ressemble sa cellule? Le mieux, c'est de le lui demander, puisqu'il l'a décrite, évidemment, dans ses mémoires. « La lumière que l'ouverture de la porte avait laissée entrer me permit d'observer la pièce dans laquelle j'étais retenu prisonnier. Elle mesurait environ 4 mètres carrés. Les murs étaient faits de pierres solides. Un parquet massif recouvrait le sol. Une petite fenêtre en travers de laquelle s'élevaient de grandes barres de fer était fermée par un volet solidement accroché du côté extérieur. Les meubles de la pièce dans laquelle je me trouvais se limitaient au petit banc de bois sur lequel j'étais assis et à un poêle crasseux et obsolète. Il n'y avait ni lit, ni couverture, ni quoi que ce soit d'autre. Et il va passer comme ça 2 semaines dans ce qu'on appelle la négrerie Williams, une prison à esclaves. Donc je le cite encore. Une porte en fer menait à la cellule adjacente, une sorte de caveau dépourvu de fenêtres ou de tout autre moyen qui aurait laissé pénétrer la lumière. De l'autre côté de la porte se trouvait un passage menant à un petit escalier en haut duquel on arrivait dans une cour entourée d'un mur de briques d'environ 4 mètres de hauteur. Au fond de la cour, qui s'étendait sur une dizaine de mètres, s'élevait un bâtiment qui en occupait toute la largeur. Sur un des murs, on trouvait une imposante porte en fer qui ouvrait sur un petit passage, un passage couvert jusqu'à la rue. Cette porte scellait le sort malheureux de tout homme de couleur sur qui elle se refermait. Une des extrémités du toit rentrait vers l'intérieur, formant une sorte d'appentis ouvert. Ce toit abritait un immense grenier où les esclaves, s'ils y arrivaient, pouvaient passer la nuit ou trouver refuge par temps de tempête. Cela ressemblait à une grange de ferme, sauf qu'elle était construite de façon à ce que tout le monde extérieur ne puisse jamais voir le bétail humain qu'on y rassemblait. Le quotidien de Solomon est terrible. Il a peu d'appétit, on le comprend. Il se nourrit quand même 2 fois par jour à heure fixe. Ses blessures l'empêchent de rester trop longtemps dans la même position. Mais à ce moment-là, il pense encore qu'il va, bien entendu, recouvrer sa liberté, qu'on est dans un malentendu, qu'on va comprendre, qu'on va l'entendre. Solomon affirme son statut d'homme libre. On le traite de menteur. On le flagelle. « Je crus mourir sous les lanières de cette maudite brute, » dit-il. « Encore aujourd'hui, ma chair se crispe autour de mes os chaque fois que cette scène me revient en mémoire. J'étais en feu, mes douleurs n'auraient pu être comparées qu'aux agonies brûlantes de l'enfer. » C'est la seule et c'est la dernière fois qu'il va parler de son statut d'homme libre. Il comprend bientôt qu'il n'a aucun intérêt à le faire, évidemment. Alors, au bout de 2 semaines passées dans cette Yellow House, Solomon est embarqué sur un bateau en direction de la Louisiane. Il échafaude tout un plan pour s'échapper, mais il n'y arrive pas. À bord du navire, il y a la variole. Beaucoup d'hommes meurent. Il demande à un marin qui s'appelle John Manning de poster une lettre qu'il a réussi quand même à écrire à sa famille. Il explique avoir été enlevé. Il demande qu'on lui vienne en aide. Problème, Solomon est impossible à localiser. Les recherches qu'on va bien sûr entreprendre pour le retrouver, ces recherches vont rester sans effet. Alors d'où vient-il ce personnage? Quelle a été sa vie avant le terrible basculement? Eh bien, Solomon est né à Minerva, dans le comté d'Essex, dans l'état de New York, en juillet 1808. Je précise à nouveau que, bien que descendant d'esclaves, lui-même est né libre. Il porte le nom de Northup, qui est celui des propriétaires qui avaient acheté ses ancêtres esclaves dans Rhode Island. Jusqu'à la mort de son père, quand lui-même avait 20 ans, il a travaillé avec son père à la ferme et pendant son temps libre, il jouait du violon. « J'employais mes heures de loisir à lire ou à jouer du violon, une distraction qui fut la passion dévorante de ma jeunesse », dira-t-il. Il a aussi beaucoup voyagé, notamment au Canada. C'est donc un homme cultivé, avec une grande expérience, et qui évidemment sait lire et écrire. Solomon Northup a épousé Anne Hampton à Noël 1829, il avait donc 21 ans, c'était juste après la mort de son père. Il écrit « Anne ne saurait déterminer avec certitude la ligne exacte de sa filiation, mais le sang de 3 races se mélange dans ses veines. Il est difficile d'établir lequel du rouge, du blanc ou du noir l'emporte. L'association des 3 lui a cependant donné un visage attirant et singulier que l'on a peu l'occasion de croiser. Disons-le, elle va être l'amour de sa vie. « Je n'ai jamais cessé d'aimer sincèrement ma femme », écrira-t-il. Ils ont eu 3 enfants, Elisabeth, Margaret et Alonzo. Ils ont mené une vie d'abord heureuse et prospère. Toute la famille habitait à Saratoga Springs, dans l'état de New York. Et au moment où Solomon est enlevé, ses enfants ne sont respectivement âgés que de 10 ans pour Elisabeth, 8 pour Margaret et 5 pour Alonzo. Ce que leur papa va vivre maintenant, personne ne pourrait l'imaginer.
Lay down, lay down. Hey boy, I'm my lord, I'm strong,
yes sir,
I'm tall,
yes sir,
my lord,
my lord,
my lord,
my lord,
my lord,
sunshine,
my lord,
head high,
too high,
for me,
too
David Heguet et Roosevelt Credit, un extrait de la bande originale du film 12 Years a Slave, un film européen. Nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur Solomon Northup.
C'est à la Nouvelle-Orléans que le bateau débarque Solomon et les autres esclaves, en tout cas ceux qui sont encore vivants, hein, puisque je vous l'ai dit, il y avait la variole qui a fait des ravages à bord. Ils sont emmenés à la négrerie Freeman, du nom du propriétaire, je le cite encore. Il y avait alors une cinquantaine de personnes dans la négrerie, nous compris. Après que nous eûmes déposé nos couvertures dans l'une des petites maisons de la cour, on nous appela pour manger et ensuite nous fûmes autorisés à nous promener dans l'enceinte jusqu'au soir. Puis nous nous enveloppâmes dans nos couvertures et nous couchâmes sous la pantille ou dans le grenier ou dans la cour, selon ce que chacun préférait. Les esclaves vont être présentés à des acheteurs. Alors on les classe et on les présente, hein, du plus petit au plus grand. Il faut que leur présentation soit impeccable. On nous demanda d'abord de nous laver méticuleusement et à ceux qui avaient une barbe de se raser. On nous donna ensuite à chacun un costume de qualité médiocre mais propre. Les hommes recevaient un chapeau, un manteau, une chemise, un pantalon et des chaussures. Les femmes, une robe de calicot et un fichu pour entourer leur tête. Désormais, Solomon ne s'appellera plus Solomon. Il va prendre un nom d'esclave. Il va être plat. Il est acheté dans tout un lot d'esclaves qui a été acheté pour $1,000 par William Ford. Il habite à ce moment-là Great Pine Hood sur la rive droite de la Red River. On est donc là au cœur de la Louisiane. L'homme en question, Ford, est pasteur baptiste. C'est considéré comme un noble ministre de Dieu et Solomon disait de lui, c'était un maître modèle, un homme honnête, du moins selon ses propres critères, et heureux était l'esclave qui devenait sa propriété. Si tous les hommes étaient comme lui, l'esclavage perdrait la moitié de son amertume. Seulement, ce moindre mal, si l'on peut dire, ne va pas durer, puisque Solomon ou Platt change de maître bien vite dès l'hiver 1842. Il faut dire qu'à ce moment-là, William Ford a des problèmes d'argent, alors il décide de vendre Solomon à un charpentier, John Tibbets, néanmoins, il va garder sur Solomon une hypothèque de $400. Ce qui va d'ailleurs sauver notre héros. Voilà la description qu'il en donne, de son nouveau maître. En tout point l'opposé de Ford, dit-il. C'était un homme petit, râleur, coléreux et rancunier. Le moins qu'on puisse dire et qu'il ne s'apprécie pas. D'ailleurs, ils vont se battre la première fois pour une histoire de clous. Voilà ce qu'en retient Solomon. Avec toute sa haine vengeresse, il me sauta dessus, me saisit à la gorge d'une main, leva le fouet de l'autre, prêt à me frapper. Avant que le coup ne tombe cependant, je l'avais attrapé par le col de son manteau et attiré à moi. Me baissant, je saisis, il faut imaginer, ils sont dans une bagarre complète, hein, je le saisis par la cheville et poussai son corps de l'autre main. Il tomba à la renverse sur le plancher, passant un bras autour de sa jambe et la tenant contre ma poitrine de façon à ce que seule sa tête et ses épaules ne touchent le sol. Je posai mon pied sur sa gorge, il était complètement à ma merci, mon sang brûlait. Il semblait couler dans mes veines comme du feu. Dans la folie de ma colère, j'arrachai le fouet de sa main. Il lutta de toutes ses forces, jura que je ne vivrais pas un jour de plus et qu'il m'arracherait le cœur. Mais ses efforts comme ses insultes furent vains. Je ne saurais compter le nombre de fois où je le frappais. Les coups tombaient les uns après les autres, lourds et rapides, sur son corps qui se débattait. Il finit par hurler, cria au meurtre, puis le tyran blasphémateur implora Dieu d'avoir pitié. Mais lui qui n'avait jamais eu pitié de quiconque n'en reçut aucune. La sévérité du manche du fouet déforma son corps jusqu'à ce que mon bras droit n'en puisse plus. Vous imaginez qu'après une scène pareille, le propriétaire, le maître Tibbets, va tenter de se venger, bien entendu, et de pendre Solomon. Le contremaître, qui s'appelle Chapin, va essayer de faire ce qu'il peut. Il s'entremet et il sauve Solomon en rappelant à son patron cette histoire d'hypothèque de Ford. Et c'est comme ça que notre homme aura la vie sauve. Après cet épisode, Solomon est envoyé chez un certain Peter Tanner, qui est le beau-frère de William Ford, afin évidemment d'échapper aux représailles. Il habite sur la rive opposée, c'est un des plus grands planteurs du Bayou Bœuf, ce Tanner, et il possède un grand nombre d'esclaves. Si l'on en croit Solomon, il a lui-même une âme charitable, mais il se fait passer pour quelqu'un de sévère. Évidemment, dès qu'il est de retour chez son vrai propriétaire, Solomon est de nouveau l'objet d'attaque. Il se défend de nouveau. Il y avait un démon tapis dans mon cœur qui me susurrait de tuer ce chien d'humain sur le champ, de maintenir ma prise sur sa maudite gorge jusqu'à ce que le souffle vital s'en aille, dira-t-il. Je n'imaginais pas l'épargner. Si je le tuais, je paierais le forfait de ma vie. S'il vivait, ma vie ne servirait qu'à satisfaire sa vengeance. Une voix me murmura de m'enfuir. C'est ce qu'il va faire. Il s'enfuit de la propriété de Tybets. Il est poursuivi par les chiens. Que fait-il? Ben, il retourne chez William Ford, qui va obliger Tybets à vendre Solomon ou bien à l'employer ailleurs. Alors, le mauvais homme, si je puis dire, le mauvais maître, ne va pas vendre l'esclave. Il va le louer, figurez-vous. Il le loue à un certain Eldred, qui l'emploie à Big Cane Brake. On est à 60 km de là. Il était difficile, écrira Solomon, d'imaginer un endroit plus solitaire ou plus désagréable que le centre de Big Cane Brake. Et pourtant, c'était pour moi un paradis comparé à tout autre endroit où j'aurais été en compagnie de maître Tybets. Je travaillais dur, j'étais souvent épuisé et là, mais je pouvais me coucher en paix le soir et me lever sans crainte le matin. Finalement, il va être vendu à Edwin Epps. On imagine ce que devait être pour cet homme qui avait si longtemps connu la liberté, pour cet homme instruit d'être comme ça considéré comme une marchandise humaine que l'on achète et que l'on vend. Solomon va vivre sur la propriété de Epps pendant 2 ans. Epps est marié, père de plusieurs enfants. Voilà la description de Solomon. Edwin Epps est un homme fort et corpulent. Il a les cheveux et le teint clair, les yeux bleus, les pommettes saillantes et un nez romain d'une taille extraordinaire. Je crois qu'il mesure plus d'1,80 m. Il a l'expression aiguisée et inquisitrice des manipulateurs. Ses manières sont répugnantes et grossières et son vocabulaire donne la preuve immédiate et sans équivoque qu'il n'a jamais bénéficié d'une quelconque éducation. C'est l'esclave qui juge le maître. Il a la capacité de dire les choses les plus provocantes, surpassant même en la matière le vieux Peter Tanner. Epps a quelques problèmes avec l'alcool, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui est évidemment affreux pour les esclaves. Quand il était ivre, nous dit Solomon, maître Epps devenait un débauché, un bruyant fanfaron dont le plaisir principal était de danser avec ses négros ou de les fouetter dans la cour avec son grand lasso, juste pour le plaisir de les entendre hurler et crier au fur et à mesure que les marques de coups se dessinaient sur leur dos. Quand il était sobre, il était taciturne, réservé et fourbe. Il ne nous frappait pas sans discernement, comme il le faisait dans ses moments d'ivresse. À quoi travaille Solomon? Parce qu'évidemment, il y a un labeur terrible. Il travaille dans les champs de maïs, dans les champs de coton. Il va suivre Epps dans la nouvelle plantation qu'il a achetée sur la rive de Bayou Boeuf. Epps le fait employer dans des plantations de canne pendant la saison de récolte et de fabrication du sucre. Il travaille notamment pendant 3 saisons à la plantation Dawkins, connue pour produire la variété la plus fine de sucre blanc. Et de temps en temps, occasionnellement, il joue du violon. On peut dire finalement que c'est même ce violon qui va le sauver.
Nous vous rappelons que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyer vos messages sur le sujet du jour, l'esclavage, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite du récit de Franck Ferrand sur Solomon Northup.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie et au destin de Solomon Northup.
Solomon Northup qui a gardé évidemment cette passion qu'il a toujours eue pour le violon. Il en joue à chaque occasion qui lui est donnée de le faire pour différentes fêtes sur les propriétés, bien entendu. Je ne peux me figurer comment j'aurais supporté toutes ces longues années d'esclavage sans mon cher violon, dira-t-il. Grâce à lui, j'ai vu des maisons magnifiques. J'ai été exempté de nombreux jours de labeur au champ. J'ai pu acheter de quoi agrémenter ma case, des pipes et du tabac, une autre paire de chaussures. Surtout, j'ai pu échapper aux joues d'un maître cruel pour me rendre dans des lieux de gaieté et de rire. Alors, néanmoins, les choses se corsent pour lui car Epps va finir par le nommer, à l'ancienneté, il va le nommer surveillant. Solomon assure qu'il n'y a pas un esclave dans le bayou qui soit plus valable que lui. Il est en pleine forme, il ne joue aucun tour. Solomon a de la valeur aux yeux d'Epps. Hein. Il a refusé 1 700 $ pour le vendre. Et donc, il va en faire son surveillant qui va devoir manier le fouet. « Je n'osais montrer aucune indulgence en présence d'Epps, dira-t-il. Je n'avais pas suffisamment de courage chrétien pour lui tenir tête en refusant d'exécuter ma tâche. J'ai ainsi échappé au calvaire immédiat qu'il a connu et également épargné à mes camarades une grande souffrance. Mais l'homme était satisfait s'il m'avait vu utiliser mon fouet en continu. Et durant mes 8 années d'expérience comme surveillant, j'ai appris à manier le fouet avec une dextérité et une précision incroyables, le claquant à 1 millimètre du dos de l'esclave, de son oreille, de son nez, sans pour autant le toucher. » Vous voyez le subterfuge terrible, affreux finalement, auquel on le condamne. Alors il y a là la scène sans doute l'une des plus marquantes du film, ce moment où Solomon doit punir une femme pour un forfait d'ailleurs tout à fait dérisoire. Quand je l'eus frappé pas moins de 30 fois, écrira-t-il, je m'arrêtai et me tournai vers Epps, espérant qu'il en ait eu assez. Mais il m'ordonna de continuer, en jurant amèrement et en me menaçant. Je la frappais 10 ou 20 fois encore. Son dos était alors couvert de longues marques qui se croisaient comme les mailles d'un filet. Finalement, Solomon n'en peut plus davantage. Il jette le fouet à terre et c'est Epps qui va terminer la besogne. On comprend que partout, chez Ford, Tibbetts ou Epps, Solomon n'ait eu qu'une volonté, s'enfuir et retrouver les siens. Il n'y eut pas un jour durant les 10 années où j'appartins à Epps où je n'ai pensé à m'échapper et aux moyens d'y parvenir, dit-il. D'ailleurs, il apprend au chien à le respecter, hein, en se disant que le jour où il s'enfuirait, au moins les chiens n'oseraient pas le poursuivre. Il tente une nouvelle fois d'écrire à ses proches. Alors il va voler une feuille à sa maîtresse. Il réussit à fabriquer de l'encre en faisant bouillir de l'écorce d'érable et il écrit une lettre. Et c'est un homme qui va l'aider, un charpentier de Bayou Rouge qui s'appelle Bass Avery. Ils se sont rencontrés en juin 52 lorsque Solomon construisait une maison pour Epps. Bass est blanc, originaire du Canada. Pour la première fois depuis des années, Solomon ose confier son histoire à quelqu'un. Bass le croit, il l'écoute, il est touché et il va écrire une lettre en son nom où il raconte son histoire, hein, comme s'il était lui-même Solomon. J'ai été enlevé à Washington après avoir été drogué jusqu'à l'inconscience. Quand je me suis réveillé, on m'avait volé mon certificat et enchaîné, écrit-il. Et Bass va envoyer cette lettre à Saratoga, où elle arrive bien au début du mois de septembre. Elle arrive à deux associés, messieurs Parker et Perry, qui immédiatement vont l'envoyer à la femme de Solomon, à Anne. Et à ce moment-là, la famille va pouvoir partir pour le village voisin de la propriété où se trouve Solomon, à Sandy Hill. Rendez-vous avec un certain Henry Northup, un parent de la famille pour laquelle travaillaient ses ancêtres, qui exerce la fonction de juriste renommé à Sandy Hill. Il lui demande son avis, son aide. Northup découvre dans la législation une loi qui justement concerne le maintien illégal de citoyens libres en esclavage. Cette loi, elle datait de 1840. On monte donc un dossier qui est adressé au gouverneur le 23 novembre 1852 sous le sceau de l'État. Henry Northup est désigné comme agent avec tout pouvoir pour mener à bien la libération de Solomon, qui sera libéré début janvier 1852. Il repart avec son cousin lointain, si je puis dire, Northup. Ils arrivent à Washington, où Solomon pourra déposer une plainte pour enlèvement et vente illégale en esclavage contre James Birch, rappelez-vous. Et puis, après quoi, il va retrouver sa famille, bien entendu. « Mon cœur débordait de joie, dit-il, à la vue de tous ces endroits familiers, à l'idée d'être parmi tous mes vieux amis. Le matin suivant, je me mis en route pour Glen Falls, où habitaient Anne et nos enfants. » Vous imaginez, je vous laisse découvrir ça dans le film, les retrouvailles extraordinaires. Solomon Northup ne mourra qu'en 1857, c'est-à-dire quand même 4 ans après son retour. Et jusqu'au bout, il aura éprouvé la plus totale gratitude pour ce charpentier qui l'avait aidé et qui s'appelait Avery Bass. Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Nous allons avec vous évoquer non seulement le cas de ce Nordup, mais évidemment le cas de tous ces esclaves de l'Amérique du Nord, de ces esclaves des États-Unis. Les États-Unis ont sur la conscience, si je puis dire, les massacres d'Indiens, mais l'esclavage fait aussi partie de leur fardeau.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'esclavage cet après-midi. Nous en parlons avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis, auteur de l'ouvrage « Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche » aux éditions Tempus.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Franck.
En fait, c'est toujours très agréable de parler avec vous parce que vous connaissez les États-Unis de l'intérieur, si je puis dire. Et cette histoire des esclaves américains, vous l'avez en quelque sorte revécue en écrivant le livre, il faut dire. C'est une histoire qui est encore sensible aujourd'hui.
Oui, parce que aux États-Unis, je me suis rendu compte au fond qu'on ne peut pas comprendre ce pays si on ne comprend pas ce que fut l'esclavage et pour nous permettre d'en trouver les traces aujourd'hui. Évidemment, on est bien loin de cette époque, et bien heureusement. Mais tout événement historique, c'est pas à vous que je l'apprends.
Laisse des traces.
Voilà, des héritages parfois difficiles à décrypter.
Quand on va dans le sud des États-Unis, voilà. Il y a encore quelque chose, on peut dire.
Ah, complètement, on le ressent. Moi, je me souviens, j'ai vécu longtemps dans le sud. S'il y a une chose que vous évitez, c'est d'avoir la moindre altercation avec quelqu'un qui conduit une voiture avec le drapeau confédéré à l'arrière de la voiture ou du pick-up, car on en croise encore. Et vous avez des balles confédérées qui sont supposées être des balles qui rappellent le bon vieux temps avec les crinolines.
Ça fait référence à la guerre de sécession.
Voilà, le camp sudiste. Mais le bon vieux temps, c'est aussi pour certains le temps de l'esclavage ou au moins de la ségrégation.
Alors, la ségrégation, alors ça nous entraînerait très loin, mais on va parler aujourd'hui de l'esclavage des esclaves en partant de ce cas, celui de Solomon Northup, qui a donc écrit ses mémoires, « 12 Years a Slave », esclave pendant 12 ans, porté à l'écran. Vous avez vu le film, il est marquant.
Oui, j'ai vu le film et en écoutant votre récit, les images sont vraiment ressurgies. C'est un film absolument bouleversant. Je ne recommanderais pas d'y amener les enfants, mais la violence et la cruauté n'y est pas du tout gratuite.
Oui, c'est ça, toujours un sens dans ce film-là.
C'est la première fois que je vois un film qui montre ce que j'avais lu et heureusement pas vécu.
Alors ce personnage, Solomon, j'ai bien insisté, je l'ai dit deux ou trois fois au début pour qu'on comprenne ce qu'il y a de singulier dans son parcours, ce qui ne nous empêchera pas de parler de tous les autres esclaves évidemment, mais c'est que lui est né libre. Comment était-ce possible, cet homme noir qui naît dans l'État de New York, citoyen américain libre ?
Oui, citoyen américain libre. Et pour le comprendre, il nous faut revenir très brièvement aux origines de l'esclavage aux États-Unis. Les Africains sont arrivés soit d'Afrique, soit des Caraïbes, des Antilles, souvent de plantations françaises d'ailleurs, à partir des années 1619-1620.
Dès le tout début. Hein.
Voilà, dès le début. Il n'y a pas d'histoire des États-Unis sans histoire de l'esclavage. Et puis, il y a eu la guerre d'indépendance, 1776. Tous les hommes sont créés égaux, écrit Thomas Jefferson. Et là, il y a quand même un grand élan qui fait que beaucoup de maîtres libèrent leurs esclaves, et c'est l'origine de cette société noire libre. Alors, à l'époque de Salomon, ils sont environ 300 000 noirs libres, donc descendants de ceux qui ont été libérés au moment de la guerre d'indépendance, qui ont eu des enfants, donc le nombre a augmenté, et puis souvent des esclaves libérés individuellement par des maîtres qui parfois libèrent d'ailleurs les enfants qu'eux-mêmes ont eu avec une de leurs esclaves, ou simplement parce que il y avait aussi, je mets plein de guillemets, mais de bons maîtres qui souhaitaient aussi libérer certains de leurs esclaves.
Mais pour les gens de couleur de l'époque, il y avait toujours cette espèce de suspicion. Quand on les voyait, on se demandait, mais pourquoi celui-ci-là n'est-il pas esclave ou n'est-elle pas esclave,
hein ? La couleur de peau est créer le soupçon. La majorité des Noirs aux États-Unis, la très grande majorité, environ 4 millions à l'époque, étaient esclaves. Et un Noir libre devait sans arrêt pouvoir prouver. Hein. Vous avez évoqué le drame de Solomon à qui on a pris ce certificat d'homme libre dont il ne devait jamais se séparer. Et honnêtement, ça n'était qu'un bout de papier. Quelqu'un de mal intentionné pouvait rapidement s'en débarrasser.
Alors l'aventure très longue et affreuse qu'il a vécue entre 1800 1841 et 1853 ne se situent pas à cette époque par hasard, si je puis dire. On est juste avant la guerre de sécession, précisément.
Exactement.
Dans une période de tension particulière.
Une période de tension extrême, parce que les États, disons, du Nord, il y a 13 États qui ont aboli l'esclavage, officiellement, légalement. Et puis vous avez 13 États du Sud qui sont esclavagistes, tiennent à le rester et qui en plus ont besoin de plus en plus de terres parce que le coton, le tabac, le sucre se vend beaucoup, notamment en Europe. Donc il faut plus de terres, plus d'esclaves. Et la compétition est très très grande entre États du Nord et États du Sud pour le statut des territoires de l'Ouest qui sont conquis à ce moment-là. Seront-ils libres,
comme on
disait ?
En pleine ruée vers l'Ouest.
Voilà, exactement, ruée vers l'or aussi.
Vers l'or, hein.
Et où seront-ils esclavagistes ? Et on sent qu'on va vers la guerre, que les deux systèmes ne vont pas pouvoir vivre ensemble. À cause de cela, la tentation pour les esclaves de se sauver est de plus en plus forte, ce qui fait que dans le Sud, le système esclavagiste est de plus en plus dur, de plus en plus cruel, de plus en plus brutal. Il faut faire peur. Autre élément important qui éclaire notre histoire, c'est que depuis le début du 19e siècle, l'importation d'esclaves est interdite.
Donc il y a une forme de pénurie. Hein,
voilà, un esclave coûte très cher, vous mentionnez des prix hallucinants.
Hein, oui.
Pour l'époque, ce sont des fortunes. Donc enlever des Noirs et les vendre comme esclaves, c'est un trafic très très lucratif.
Et donc il y a une tension, on peut dire que certains vont à la chasse aux personnes de couleur, c'est ce qui se passe dans le
C'est tout à fait cela. Ce sont des contrebandiers, ce sont des gens qui vont au-delà de la frontière. Donc là, c'est pas une vraie frontière, mais ils vont dans le nord et ils kidnappent des individus et ils gagnent beaucoup d'argent de cette manière-là.
Ils ont établi une sorte de comment est-ce qu'on pourrait dire, de contrebande d'esclaves,
oui,
c'est ça?
Ouais. Alors aujourd'hui, on va chercher des cigarettes de l'autre côté de la frontière, c'est moins grave. Là, c'était des hommes.
On a une idée du nombre de personnes que ça a pu représenter, ça?
Pas de chiffre, pas le moindre chiffre. On sait que c'était une pratique fréquente, comme je le disais, extrêmement lucrative, mais évidemment illégale, secrète, et on n'a pas de chiffre. Et le récit de Solomon est le seul récit d'un esclave, enfin d'un homme libre vendu comme esclave, qui a écrit son histoire, alors qu'on a une centaine de récits d'esclaves qui se sont sauvés et qui, une fois libres dans le Nord, ont écrit leur propre histoire.
Quelle est, en revanche, ça, ce sont des statistiques que l'on a, des chiffres que l'on connaît, quelle est la quantité d'esclaves utilisés sur les différentes plantations aux États-Unis, comme ça, à cette époque ?
À cette époque-là, il y a environ 4 millions d'esclaves dans le Sud. Et ce qu'on garde toujours en tête, ce sont les grandes plantations qui ressemblent à autant en emporte le vent, immense, avec de très belles maisons et puis des centaines d'esclaves. Et c'est le mode de vie modèle auquel les Blancs du Sud aspirent. Mais ça n'est pas le mode de vie général. Au contraire, la plupart des plantations n'ont pas plus de 20 esclaves et quelquefois un ou deux esclaves. Ce sont aussi des petites fermes assez pauvres. Donc pour que ça tienne, si j'ose dire, pour que les esclaves ne fassent pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire se sauver, embarquer leurs femmes et leurs enfants, égorger le maître parfois qui leur en fait tant voir, il faut qu'il y ait une violence et une terreur
une
absolument constante.
Totale. C'est-à-dire qu'on a connu au XVIIe siècle, notamment, on songe au célèbre Code noir, édicté par Colbert, mais il y a eu des mesures d'une très grande violence contre les esclaves. Ces mesures, elles se sont peut-être assouplies dans les faits petit à petit de décennie en décennie, mais la discipline reste très violente, avec notamment l'usage du châtiment corporel à tout bout de champ.
Hein. Le fouet.
Le fouet. Hein.
Le fouet, c'est vraiment omniprésent. Vous n'avez pas un maître, vous n'avez pas un contre-maître, même parmi ceux qui sont, disons, les plus civilisés, qui se déplacent dans la plantation sans fouet.
Et ça, c'est le symbole, voilà, déjà, en soi.
Le fouet, c'est ce qui permet de faire très peur, de faire extrêmement mal, sans tuer. Bon, on peut aussi mourir sous les coups de fouet. Et malheureusement, il y a eu pas mal d'exemples. Mais le maître peut s'arrêter avant, ce qui fait qu'il garde cette propriété tellement valable. C'est très rare que les esclaves soient tués, pendus. il faut vraiment que, comment dire, le maître sente qu'il faille faire un exemple pour terrifier tous les autres. Et puis, il faut que l'esclave, généralement, se soit rendu coupable du meurtre d'un blanc. Parce que il y a cette valeur de la propriété. Bon, donc il y a le fouet, il y a les chiens dont vous parlez, et puis il y a les patrouilles, que l'on ne voit guère dans le film, mais qui permettent à ces plantations souvent très isolées de tenir cette discipline de fer. Les patrouilles, ce sont des hommes avec des chiens, en général, parfois des chevaux, qui circulent dans la campagne, qui vont de plantation en plantation, qui font régner la terreur dans le quartier des cases.
Et qui font régner la terreur non seulement chez les esclaves, évidemment, mais dites-vous, aussi chez les maîtres,
absolument,
d'une certaine façon.
Absolument. Ford, le brave homme, on peut dire, le brave type,
le premier
maître qui est né dans le sud, qui a des esclaves, et qui, il n'a pas le choix de protéger Solomon comme il le voudrait. Les blancs qui faisaient des choses interdites, comme protéger un esclave que l'on jugeait coupable, apprendre à lire, ça c'était crucial, c'était interdit. Le blanc qui faisait cela risquait totalement d'être lynché, tout comme un noir. Lynché, ça veut dire pendu au bout d'une corde ou jeté dans un bayou. C'est très facile de faire disparaître les gens en Louisiane, par exemple.
Oui, évidemment, il n'y a pas tellement de témoins, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse en dire.
Mais cette société est donc d'une très grande dureté. Elle ne survit en quelque sorte que par une forme de police de la pensée, est-ce qu'on peut dire ça, et des comportements?
Je pense qu'on peut dire que c'est un système tout à fait totalitaire. Tout à fait totalitaire. Moi, j'ai visité dans le sud pas mal de ces plantations, parce que toutes n'ont pas été détruites pendant la guerre de sécession, il en reste. Et c'est dans des climats quand même très très durs. Il n'y a plus la fièvre jaune et le choléra comme à la grande époque. Mais c'est tropical, c'est très humide, c'est bourré de serpents à sonnette, de scorpions, un tas de bestioles extrêmement sympathiques. Vous avez ces plantations isolées avec de grandes, belles maisons de bois. Le quartier des cases, tout proche, ça peut être à 20 mètres, à 200 mètres. Et alors là, ce sont des petites bicoques en terre battue. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de mobilier, il n'y a pas de fenêtre. Et vous avez un troupeau d'esclaves entassés là. Et puis les gens de la grande maison qui vivent avec, les crinolines, les réceptions, les fêtes d'ailleurs dans lesquelles Salomon peut jouer du violon.
Justement, Nicole Bacharon, il faut que nous y venions. Hein. Dans un instant, on va parler de cette vie quotidienne qui est assez différente néanmoins de ce qu'on pourrait imaginer. On n'est pas seulement sous la schlag, si je puis dire. S'installe peu à peu une sorte de vie parallèle sous une contrainte effroyable, mais qui une vie qui existe néanmoins. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ce sublime chœur des esclaves, extrait du Nabucco de Verdi, Va pensiero, sous la baguette si précise, si élégante, du maestro Claudio Abbado, qui nous a quittés il y a quelques heures. Claudio Abbado était sans conteste le plus grand chef d'orchestre vivant. Il avait un temps succédé à Herbert von Karajan à la tête du Philharmonique de Berlin, le Berliner Philharmoniker qu'on entendait là, avec le chœur du Deutsches Oper. C'était un très grand maître, évidemment, et ce chœur des esclaves est devenu, on peut le dire, le symbole de la libération pour de très nombreux peuples, y compris sur le continent américain, mais plutôt sud-américain, Nicole Bacharon. Alors venons-en peut-être à la vie quotidienne qu'on voit dans ce film. Hein. C'est assez spectaculaire, le contraste qui peut exister entre la vie des Blancs et celle des esclaves noirs. C'est...
Tout à fait. Et en même temps, ils vivent ensemble, puisqu'ils sont isolés par rapport à d'autres plantations, par rapport aux villes. On voit que les esclaves, dans n'importe quelle circonstance, ils luttent pour avoir une vie à eux. Et il y a des amours, il y a des enfants, il y a des rivalités. La même chose pour les blancs. Et ils finissent aussi par se lier avec certains de leurs esclaves. Ils ont beau nier que ce soit des humains, ce sont des humains. Très souvent, il y avait une grande complicité, par exemple, entre la maîtresse de la plantation et la nounou, celle qui l'aidait à accoucher, celle qui l'aidait
à élever les enfants,
à élever
etc.
Les
On voit
enfants.
Ça dans Autant n'importe le vent, évidemment. Hein.
Voilà, là, c'est peut-être un peu idéalisé, mais ça existait, bien sûr. Et puis, une solidarité, parfois, des femmes face au maître, qui était quand même, le mari était aussi le maître de la femme blanche de la plantation, et le maître qui a tous les droits sur toutes les femmes de la maison, que ce soit son épouse ou les femmes noires, les esclaves. Il n'y a pas de notion du viol d'une esclave. Ça n'existe pas, cette idée-là. Donc, elles sont à disposition, et il y a évidemment beaucoup de maîtres qui en abusent.
Alors on voit évidemment dans le film cette vie qui néanmoins s'établit sur ces plantations. Ça paraît inouï dans ce régime de violence, mais les esclaves finissent par s'organiser leur propre existence bien modeste et bien contrainte évidemment. Mais il y a des fêtes par exemple.
Oui, il y a des fêtes. Notamment, il y a quand même le repos dominical que la plupart des maîtres respectent parce que cela fait partie de la tradition religieuse, des écritures, les esclaves. C'est quelque chose que l'on ne voit pas dans le film, mais souvent ils ont leur propre réunion religieuse avec ces chants, d'ailleurs, qui sont nés vraiment dans l'esclavage et qui sont devenus tellement emblématique de la culture américaine. Il y a des mariages, il y a des fêtes, il y a la fête des moissons notamment, il y a Noël qui souvent, Noël c'est l'occasion d'une semaine de repos, vous imaginez ce que ça peut représenter dans cette vie de labeur constant. Et puis à tout instant, ces moments quand même d'intimité ou de réjouissance peuvent être brisés parce que le maître a une fantaisie, le maître a un besoin, le maître peut vendre les familles séparément. Certains l'évitent, mais ils en ont tout à fait le droit. Et là, on est dans des scènes absolument déchirantes.
Et vous parliez de viol tout à l'heure, même au-delà du viol, des affaires qui peuvent sexuelles, qui peuvent se développer entre les maîtres et les esclaves, avec donc des enfants qui naissent aussi de tout ça.
Tout le temps, tout le temps. C'est une des choses qui m'a le plus frappée, je crois, en me penchant sur cette histoire, c'est que l'Amérique n'a jamais été la nation blanche qu'elle a prétendu être. Dès le début du XVIIe siècle, dès l'arrivée des premiers colons et des premiers Africains, il y a eu des enfants métis, toujours. Et sur les plantations, notamment, les femmes noires étaient enceintes, elles mettaient au monde des enfants au teint clair, et chacun prétendait ne pas savoir d'où diable pouvait venir cet enfant. On accusait un contremaître, un représentant de commerce, etc. Tout le monde niait ce qui crevait les yeux, notamment très souvent, que l'enfant ressemblait diablement au maître de la plantation.
On a connu ça sans le système de l'esclavage dans certaines grandes propriétés françaises aussi, d'autres
Mais
siècles.
Absolument.
Mais bon. Alors, vous parliez de plusieurs millions de
millions,
personnes
oui.
tenues comme ça en servitude. On imagine qu'il y a bien eu à avoir quand même de temps en temps des révoltes et des rébellions.
Il y a eu toujours. Toujours des révoltes. Ça n'a jamais été accepté. Le côté, vous savez, paternaliste de l'époque disait, ben vous savez, ce sont des gens un peu simples, on prend soin d'eux, finalement, ils sont assez contents. Ça n'a jamais été vrai. Les révoltes, il y en a eu plusieurs centaines, au moins de documentées, sans compter les assassinats, les incendies de maisons ou de récoltes.
Ça va de la petite révolte personnelle, comme on peut voir d'ailleurs dans le film, à des collusions quand même, et à des rébellions. Plus ou moins organisé.
Plus ou moins organisé, difficile de s'organiser. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Il fallait essayer de communiquer entre plantations. Mais il y a eu des révoltes organisées qui ont impliqué plusieurs milliers d'esclaves, notamment en Louisiane d'ailleurs. Généralement, il y avait toujours quelqu'un qui trahissait, donc elles étaient réprimées de la manière la plus dure, mais avant que les choses ne se développent. Et il y a eu en 1822 la grande conspiration d'un homme Dans 1831, pardon, ça nous rapproche d'ailleurs des années de servitude de Solomon, la révolte de Nat Turner, qui est restée dans les annales, c'est presque un proverbe, c'est quelque chose qui vous fait froid dans le dos. Nat Turner, il se pensait prophète, envoyé de Dieu. Il avait un plan tout simple, assassiner tous les blancs sur sa plantation, recruter les esclaves qui étaient présents, et puis passer à une autre plantation.
Ça fait beaucoup penser à Spartacus, hein, cette histoire.
Voilà,
hein.
Exactement. Et aller de plantation en plantation, assassiner d'un côté, recruter de l'autre. Et il a recruté comme ça quand même plusieurs centaines d'esclaves, assassiné une soixantaine de blancs, et puis évidemment, les milices, l'armée se sont réunies et ont profité pour le capturer, pour répandre la terreur et tuer effectivement un grand, grand nombre de Noirs.
Alors pour revenir à notre film 12 Years a Slave, ce film qui sort donc mercredi, c'est un film de Steve McQueen, je précise, pour ceux qui n'ont rien à voir avec l'acteur de Au nom de la loi, hein, bien entendu, c'est ce cinéaste qui avait fait par ailleurs des films assez forts, hein, Shame, je pense notamment sur l'addiction au sexe, etc. C'est quelqu'un qui n'a, si j'ose dire, qui n'a pas sa caméra dans sa poche. Pour revenir à l'époque du film, on est en pleine période dite abolitionniste, c'est-à-dire qu'il y a au même moment, alors même que Solomon Northup connaît ce désastre, il y a des gens qui se battent pour la liberté des esclaves, en fait.
Absolument, ils sont,
la suppression
ils
de l'esclavage.
Sont dans le Nord. Ils sont très actifs, ils écrivent dans les journaux, ils font des conférences, ils réunissent des fonds, ils aident les esclaves qui ont réussi à s'enfuir du Sud à trouver des maisons pour les abriter, pour petit à petit les amener jusqu'au Canada pour qu'on ne puisse pas les reprendre. Mais ces abolitionnistes, à cette époque, dans les années qui précèdent la guerre de sécession, ont la réputation d'être un peu des extrémistes, des radicaux, des utopistes assez dangereux. Néanmoins, il y a un homme qui va, un peu contre son gré, j'ai envie de dire, représenter la cause abolitionniste, c'est Abraham Lincoln, qui était tout à fait opposé à l'esclavage, mais pensait que ce n'était pas du tout son rôle de l'abolir, du tout. Lui, son rôle, c'était de maintenir l'union intacte. Il pensait d'ailleurs que Noirs et Blancs ne pouvaient pas vivre paisiblement ensemble.
On a raconté ça ensemble ici, d'ailleurs.
Qu'il fallait qu'ils partent, qu'ils retournent en Afrique ou peut-être dans les Antilles. Mais c'est vrai que d'une chose à l'autre, entraîné par la réalité du conflit, Abraham Lincoln est devenu la grande figure de l'abolitionnisme.
Ce qui va amener un certain nombre d'esclaves à essayer de se sauver, de quitter le Sud pour essayer de regagner le Nord, hein, bien entendu.
Dès que la guerre éclate.
Hein. La proclamation de l'émancipation, c'est 1863.
1er janvier 1863. Et là, effectivement, les esclaves qui déjà, à la moindre occasion, s'enfuyaient, considèrent que de toute manière, ils sont libres. Mais la guerre durera encore 2 ans de plus.
Et 2 grands amendements à la Constitution 2 ans plus tard, donc, en 65. Un pour abolir l'esclavage et l'autre pour donner le droit de vote aux anciens esclaves.
Hein, absolument. Et pendant une petite dizaine d'années, on aura la période qu'on appelle la reconstruction.
Ah oui, il faut dire un mot de cette reconstruction, c'est important. Hein.
C'est le moment où, après la guerre, le Sud est vaincu, les esclaves sont libérés et les troupes du Nord mettent le Sud sous gouvernement militaire. Et donc là, les lois sur la libération des esclaves sont appliquées. Ils peuvent aller, venir, se marier, voter. Il y a une vingtaine d'élus noirs qui entrent au Congrès, mais ils ne reçoivent pas de terres. Ce qui fait que les plus démunis des esclaves, la grande majorité, qui ne savent pas lire, pas écrire, qui n'ont pas vraiment, qui ne savent pas faire autre chose que cultiver la terre, eh bien, ils retournent bien souvent dans les plantations comme métayers, comme ouvriers, mais enfin dans un statut qui n'est pas beaucoup plus heureux. Et puis le temps passe, le Nord perd un peu la foi, si j'ose dire, les troupes du Nord se retirent, le Sud est resté seuls, les anciens maîtres face aux anciens esclaves, et c'est là que s'installe la ségrégation, l'apartheid, mais ça nous amène encore beaucoup plus loin.
Ce qui est terrible avec, dans le cas de Solomon Northup, c'est que, étant mort en 1857, il est mort juste avant de pouvoir assister à tout ça. Il est mort moins de 10 ans trop tôt, si je puis dire.
Absolument. Je pense que la dureté de ce qu'il a vécu a certainement écourté sa vie, et il n'a pas su que tous les esclaves américains seraient libérés.
Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Je rappelle le titre notamment de cet ouvrage, hein, qui est reparu chez Tempus en 2010, Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche, puisque maintenant nous avons un président noir à la Maison Blanche, même s'il ne descend pas lui directement d'esclave.
Non,
pas...
hein, puisque son père était kényan, mais sa femme, oui, Michelle Obama, descend tout à fait de famille d'esclaves.
Et puis donc, ses mémoires, ce livre qui a inspiré le film de Steve McQueen, chez Michel Lafon, de Solomon Northup en personne. 12 Years a Slave, esclave pendant 12 ans. Le film sera dans les salles à partir de mercredi.
Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répond à la question de Louise sur l'origine des colonnes Maurice.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Louise. Elle nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission. Elle voudrait connaître l'origine des colonnes Maurice qui occupent les trottoirs parisiens.
Alors ces colonnes Maurice, elles apparaissent à Paris sous le Second Empire, vous savez. En 1868, il était temps, juste à la fin du Second Empire. Et celui qui va les lancer, c'est l'imprimeur Gabriel Maurice. Mais, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces colonnes Maurice ne sont pas du tout une invention française. Ça nous vient d'Allemagne, figurez-vous. Pour une fois, ça ne vient pas des États-Unis. Enfin, une invention qui n'est pas américaine. C'est le Berlinois Ernst Litfaß qui avait inventé ces colonnes. On appelait ça les Litfaßsäule en Allemagne. Donc, il les lance en 1854 à Berlin. On est dans une époque, évidemment, où l'on a besoin d'affichage. Hein. C'est la grande époque des théâtres, des variétés, du cirque, etc. On développe les spectacles et donc il faut pouvoir trouver des lieux où afficher, d'autant plus qu'on a de moins en moins le droit d'afficher sur les murs des villes. Et la colonne Maurice, telle qu'on la connaît, elle va être une réinterprétation de ce qu'on appelait la colonne mauresque, qui existait plus tôt, hein, sous la monarchie de Juillet. C'était au départ un urinoir, disons-le, et autour sur les parois de l'urinoir, on mettait des affiches. Et le surintendant des théâtres du Second Empire estime quand même que ça n'est pas très digne, qu'il faudrait trouver un support qui soit exclusivement réservé à l'affichage. C'est la maison Maurice qui va remporter le concours, donc à la fin des années 1860, et qui va créer ces colonnes Maurice. Et puis à côté, on créera des lieux d'aisance, hein, des Vespasiennes, mais qui ne seront plus en forme de colonnes. La société Maurice va disposer d'un monopole de 15 ans, et en échange, elle couvre les frais de construction, elle s'occupe d'imprimer les premières affiches. Ça va devenir, on va dire, ces colonnes Maurice, une sorte de symbole de Paris, au même titre que les Fontaines Wallace, dont on a parlé ici même, ou que les bouches de métro signées Guimard, bien entendu. Mais il ne faut pas oublier que toute Parisienne qu'elle soit, c'est bien en Allemagne qu'elles sont nées.